chaque semaine à l'écoute d'Alter Echo, Olivier au micro, et cette semaine c'est Jean-Michel à la technique. Les rendez-vous d'Alter Echo, vous les connaissez, répétez avec moi, c'est le mercredi soir à 22h, le vendredi c'est la rediffusion à 14h et vous avez également le site internet qui est à votre disposition, www.multimania.com/alterecho. En un mot, vous y trouvez les textes et les sons de l'émission ainsi que l'intégrale de l'émission en reel audio et quelques liens supplémentaires. Comme toutes les autres fois dans Alter Echo, nous allons parler d'actualité et de médias, et cette semaine en particulier de l'actualité des médias. Le thème de la semaine sur Radio Campus, ce sont les drogues, dans le cadre du festival Pure Culture, dont vous avez déjà largement entendu parler sur cette antenne tout au long de la semaine. Nous respecterons ce thème dans la deuxième partie de cette émission, avec des invités en studio qui viennent nous offrir un regard différent sur le sujet. Jacques Mabi, bonsoir. Vous êtes médecin et vous dirigez au Pérou un centre de réhabilitation des toxicomanes. Bonsoir.
Oui, bonsoir, merci de cette
Nous avons
invitation.
également en studio Patrick Day, vous êtes anthropologue et vous travaillez sur une substance hallucinogène qui est l'ayahuasca depuis longtemps. On vous retrouvera en fin d'émission. Vous pouvez également commenter ce qui vous plaira tout au long de l'émission. Avant d'aborder le sujet des drogues et la façon dont les médias en ont parlé ces derniers temps, place à l'actualité des médias. Justement, pour une fois, les médias ont parlé cette semaine des autres médias. Il y a eu Télémoustique qui a publié un dossier intitulé « Faut-il brûler la RTBF et tout reconstruire ?» Les problèmes de la RTB, politisation et décentralisation, sont exposés de façon étayée et ce sont des questions qu'il fallait poser. On attend maintenant un reportage de la RTBF qui posera la question de savoir à quoi sert Télémoustique. Mais il y a ces jours-ci dans la presse un dossier média bien plus sérieux et qui pose des questions bien plus fondamentales. C'est l'occasion pour nous de jouer un petit jeu que maîtrisent parfaitement les médias traditionnels, la connivence et le renvoi d'ascenseur. Je vous expliquerai après. Cette semaine donc, le magazine progressiste Avancée consacre un dossier aux médias et surtout aux dérives qui les caractérisent. Le titre de ce dossier a été chipé à l'excellent petit livre de Serge Halimi et Dominique Vidal sur la propagande lors de la guerre du Kosovo. Il s'appelle « L'opinion, ça se travaille ». Cette phrase avait été prononcée par un général de l'OTAN et elle en disait très long sur le fonctionnement des médias de masse. Donc, l'opinion, ça se travaille et Avancée nous le prouve dans son numéro du mois de novembre en quatre articles bien ficelés. Pour commencer, Geoffrey Goehens campe la situation des médias belges et le tableau n'est pas bien rose. Évidemment, on le sait bien puisqu'on peut s'en apercevoir tous les jours en lisant la presse ou en regardant la télé. Mais là, on explique clairement les raisons de cette pauvreté de diversité et de contenu. On apprend ou on redécouvre ainsi que, comme partout ailleurs, les médias belges sont dominés par un petit nombre de grands groupes de presse qui sont dirigés par de grands industriels. Ainsi, en Belgique, il y a par exemple la famille Leysen. Le père André Leysen dirige le groupe flamand VUM, qui contrôle plusieurs quotidiens. André Leysen est également dirigeant du holding Gevaert, lié à la banque KBC, l'ancienne Credit Bank. Il est enfin l'ancien président de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, et il siège dans les conseils d'administration de géants industriels comme Philips, BMW et Deutsche Telekom. Son fils Thomas Leysen lui assure un pied dans la presse wallonne puisqu'il siège au conseil d'administration de Mediabel, le groupe de presse catholique du sud du pays. Parmi ses collègues, on retrouve notamment un ancien directeur de Coqueril Sambre, un gouverneur honoraire de la Banque nationale et un secrétaire général de la FEB. Dans l'audiovisuel, ce n'est pas mieux puisque RTL TVI fait partie de RTL Group, un empire flambant neuf dirigé par Albert Frère, le Rockefeller belge. À la tête de la chaîne qui diffuse Téléquinto et Place Royale, on retrouve un des proches collaborateurs du même Albert Frère et ancien conseiller du président de la Royale belge. Tout cela ne représente que le sommet de l'iceberg et on comprend facilement que dans ces conditions, il est évidemment difficile d'espérer que la presse soit indépendante et qu'elle s'abstienne de défendre les intérêts et de propager la vision du monde de ces messieurs de l'industrie et de la finance. Un autre article du même dossier, toujours signé Geoffrey Goehens, se charge d'ailleurs de nous le démontrer en analysant la façon dont les médias belges ont couvert la contestation croissante contre la mondialisation néolibérale. Seattle, Millau et Prague ont été pour la grande presse une occasion de critiquer ce large mouvement social pour sa division, réelle ou perçue, ainsi que pour des épiphénomènes comme la popularité de José Bové, phénomène que la presse a elle-même contribué à créer. Ce fut l'occasion aussi de lancer de vibrants plaidoyers libéraux et d'ouvrir ses colonnes aux défenseurs du libéralisme et de la privatisation à tout crin. L'opposition s'est, elle, retrouvée reléguée aux oubliettes du folklore. On apprend au passage que les deux journalistes qui sont chargés de couvrir ce genre d'événements pour Le Soir ne sont pas neutres en la matière. Christine Simon a écrit un livre élogieux, pour rester poli, sur Philippe Botson, le qualifiant de patron qui ose, tandis que Béatrice Delvaux, ancienne stagiaire au FMI, a lancé dans plusieurs livres, dont un sur Albert Frère, de vibrants appels à un capitalisme belge fort et conquérant. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi les voix dissonantes sont souvent absentes, ou du moins rarement prises au sérieux dans le discours médiatique dominant. Bref, courez vite acheter Avancé, le numéro de novembre, en vente chez tous les bons marchands de journaux, est à conserver. Comme promis, je vous explique maintenant le principe du renvoi d'ascenseur. En fait, si je vous ai parlé de ce dossier média d'Avancé, ce n'est pas du tout parce qu'il est bien fait ou que je l'ai trouvé intéressant. C'est uniquement parce que dans un petit encadré, on y parle en termes très élogieux d'Alter Echo, une émission de critique média diffusée sur Radio Campus et que vous connaissez sans doute. Le renvoi d'ascenseur, c'est donc ça. Tu parles de mon émission, je parle de ton magazine. On se lèche les bottes mutuellement et tout le monde s'en portera mieux. Dans le cas présent, croyez-moi ou non, ce n'est évidemment pas de ça qu'il s'agit. Je vous aurais de toute façon parlé de ce dossier, puisque je l'ai bel et bien trouvé intéressant. Mais dans la presse conventionnelle, ce mécanisme est omniprésent. Seulement, le lecteur moyen n'y voit que du feu, puisqu'il ne connaît pas les liens qui unissent les uns et les autres. Par exemple, lorsque vous lisez dans Le Monde l'éloge du dernier bouquin d'Alain Minc, vous ne savez pas forcément qu'il est le directeur du conseil de surveillance du Monde. Et ce n'est là que l'exemple le plus évident. En Belgique, ce genre de coucherie dans les médias n'a jamais, à ma connaissance, été analysé en profondeur. Mais si ça vous intéresse, pour les médias français, Serge Halimi est allé tenir la chandelle et il a tout raconté dans un petit bouquin qui est sorti il y a déjà quelques années, intitulé « Les nouveaux chiens de garde ». Parfois anecdotique, mais toujours intéressant et drôle, ce petit livre est, comme on dit dans la presse, à découvrir absolument. Après cet éloge, il faudra que je songe à écrire à Serge Halimi pour qu'il me renvoie l'ascenseur dans son prochain livre.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with the kaleidoscope eyes.
Puisqu'on parle médias et gros sous, c'est l'occasion de vous donner des nouvelles du journal du samedi. La semaine dernière, on attendait toujours la réponse de la communauté française et de son ministre Richard Miller. Le journal du samedi demandait 5 malheureux millions pour survivre. Eh bien, la réponse fut niette. D'un côté, les quotidiens qui appartiennent à de grands groupes de presse reçoivent chaque année de façon institutionnalisée des paquets de millions destinés à sauvegarder le pluralisme et l'expression de la démocratie, alors que pourtant ils ronronnent à l'unisson. De l'autre, un petit hebdo, critique et indépendant, à la limite de la survie, se voit refuser une toute petite bouée de sauvetage, bref, la routine. Dans ces conditions, il est d'autant plus décevant de constater le manque de solidarité d'un journal censément progressiste comme Le Matin, qui interviewait ce lundi sur une pleine page le ministre en question, Richard Miller. Enfin, je dis interviewé, mais je ferais mieux de dire servait la soupe ou cirait les pompes. On y lit que Miller est un personnage atypique dans la jungle politique, un passionné de la rencontre de l'art et de l'être humain. Le Matin déplore même à plusieurs reprises que Miller ne soit que ministre des Arts et Lettres et de l'Audiovisuel et non ministre de la Culture à part entière. La prochaine fois que Le Matin aura des ennuis de santé financière, il saura à quelle porte aller frapper. Pour en revenir au journal du samedi, contre toute attente, il était en librairie samedi dernier. Par précaution, les éditeurs du JDS avaient lancé un site internet pour le cas où il ne leur serait pas possible de paraître en version papier. Ce site est maintenant opérationnel et la version papier est presque identique à ce qui se trouve sur ce site. Ce n'est donc pas le JDS habituel qui se trouve en librairie, mais une version allégée et récapitulative, sans actualité. Son titre, On continue, mais jusqu'où ira-t-on? On y apprend que l'hebdo de Michel Bouffioux et de Laurent Arnaud a finalement reçu ces 5 millions, mais d'un investisseur privé. Un autre éditeur s'est déclaré prêt à fournir un soutien opérationnel en matière de pub et de gestion. Bref, il se pourrait bien que le JDS finisse par survivre, espérant juste qu'il s'agira d'une survie et non d'une récupération forcée par les contraintes financières. Pour la première fois dans Alter Echo, voici un petit spot de publicité que l'Office du tourisme de la ville de Nice nous a demandé de diffuser.
Européenne, européen, connaissez-vous vos droits? Savez-vous que les 7 et 8 décembre prochains, vos dirigeants décideront sans vous de votre avenir? À Nice, ils vont remanier les textes fondateurs de l'Union. sous de belles paroles démagogiques, se prépare une remise en cause des droits économiques et sociaux les plus fondamentaux, droit au travail et donc aux prestations sociales. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne trouvez pas de travail, vous pourrez toujours vous engager dans la future armée européenne, qui sera composée de 80 000 hommes, plus une réserve de 230 000. Quand on pense aux seulement 8 000 soldats belges qui engloutissent d'ores et déjà 13% du budget national, on imagine ce que coûtera cette nouvelle armée pacifique que ça. Et si la guerre armée ne vous plaît pas, vous pouvez toujours vous engager dans la guerre économique. La famille européenne compte bien s'élargir aux pays de l'Est pour y exporter ses valeurs extrêmement coûteuses. Elle imposera à l'Est les fameux critères de Maastricht qui nous ont valu des années d'austérité et une revue à la baisse de nos budgets sociaux. Avec autant de pays, la cacophonie nous guette. Conséquence, pour faciliter les décisions, l'Union européenne abolira le droit de veto. Vu l'orientation politique de l'Europe, on peut craindre l'accélération du fonctionnement des institutions et les dérapages du vote à la simple majorité. Comme à Seattle, comme à Prague, ils ne décideront pas sans nous. N'acceptons pas en silence les diktats pris par-dessus nos têtes. Rejoignez à Nice ceux qui ont décidé de faire entendre leur voix. Rendez-vous le 6 décembre pour un grand rassemblement, suivi du blocage du sommet les 7 et 8 décembre. Pour plus d'infos, envoyez un mail à collectifnice2000@wanadoo.fr ou visitez belgium.indymedia.org. À Nice, les pavés seront sous la plage.
Vous l'aurez compris, ce spot ne vient pas de la ville de Nice, mais du Centre des médias indépendants qui mobilise pour le contre-sommet de Nice. Comme vous avez pu l'entendre, les dirigeants de l'Union européenne se réuniront dans 2 semaines pour finaliser la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui devrait servir plus tard à l'élaboration d'une constitution européenne qui devrait primer sur le droit national. Après des années de construction d'une Europe économique de l'argent et des marchés, il est grand temps de commencer à bâtir une Europe sociale solide. Pourtant, c'est tout le contraire qu'annonce cette charte. Le texte de cette charte est ambigu et flou, et il laisse largement le champ de l'interpréter dans le sens ultralibéral qui est celui de l'Union européenne depuis de nombreuses années. Les droits sociaux repris dans la charte sont mis au niveau du plus petit commun dénominateur et représentent une régression par rapport à ce qui existe actuellement dans la plupart des pays membres. De plus, ces droits sont considérés comme des objectifs politiques et non comme des droits de base garantis. Le droit au travail, par exemple, devient dans cette charte une liberté de travailler. Le texte de la charte n'offre pas non plus la possibilité de définir au niveau européen un seuil de pauvreté sous lequel il deviendrait indécent de descendre. Pour résumer, en ce qui concerne le volet social, si cette charte est ratifiée, la sécurité sociale risque fort de devenir la charité publique d'ici quelques années. Par contre, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre sont dans ce texte des notions bien ancrées qui bénéficient de toutes les garanties du monde. Pour ce qui est du droit des femmes, c'est carrément le retour à l'époque victorienne. Les femmes ont le droit, je cite, de se marier et le droit de fonder une famille selon les lois naturelles qui en régissent l'exercice. Fin de citation. Autre danger, la modification de l'article 133 qui stipule en gros qu'en matière de commerce extérieur, chaque pays membre a un droit de veto sur les décisions de l'Union, du moins en ce qui concerne les services, les investissements et la propriété intellectuelle. Si cet article est remanié dans un sens qui supprimerait le droit de veto, les conséquences pourraient être graves. Juste un exemple, c'est grâce au veto de la France que l'Union européenne a reculé lors des négociations de l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements, un traité qui aurait fait du monde entier, et du tiers-monde en particulier, la plaine de jeu des multinationales. Pour toutes ces raisons, la mobilisation contre le sommet de Nice sera forte. Les syndicats européens, l'organisation ATTAC, les coordinations contre la mondialisation libérale, les marches européennes contre le chômage et la précarité, et plus généralement, tous ceux qui sont pour une Europe de la dignité plus que pour une Europe des marchands, seront là pour se faire entendre. Alter Echo y dépêchera aussi son éternel envoyé spécial, comme pour le contre-sommet de Prague, et vous aurez évidemment droit à une émission spéciale dès le 13 décembre.
Issus des plaines d'Afrique, bonheur enrobé de tabac. Petit matin, à du retric, glissa des rêves en chocolat. Plante tes vertes à consumer, loi de la déroute et moments cool. Paresse, blues, immobilité, fatigue, rire et grand écroule. Oh oh oh, ah si je m'en vaut. Oh oh oh, herbeuse m'en vaut. Issus de nos laboratoires, chimie, des buvards et pilules. Prise propre, un peu d'eau à boire, non abrégée. ridicule. Montée, descente dans la nuit, voyage, vision, beauté facile, joie, allu, peur, folie. Faut pas que ça reste indélébile. Oh oh oh, extatatatiquement beau. Oh oh oh, acidement beau. Issu du sud de l'Amérique, au fond des culs, dans les avions, blanches colombes viennent en Belgique pour faire de nous des canons. Vitesse, énergie par le nez, poudreuse à pulsion, grand réveil, rail sans train pour bien s'énerver, descente en gare que trop primée. Oh oh oh, cocaïne morpho. Oh oh oh, poudreuse morpho. Du sud asiatique, belles fleurs, des triangles dorés, opiacieuse boule vraiment typique, poudre brune et chair dans nos contrées, recette citron, vinaigre pique, flash assassin, grand esclavage, des mondes à prendre trop fantastiques, descente de mort lente et sauvage. Oh oh oh, héroïne m'en vaut. Oh oh oh, piqueuse m'en vaut. À moi, issu d'un monde qui déchire, ni riche ni pauvre, moi je suis là. On accuse toujours de délire, ou le camé, ou le soldat, ils s'en vont tous deux à la mort, ou s'en reviennent avec blessure. C'est pas toujours eux qui ont tort, y'a d'autres coupables, ça j'en suis sûr. Issu d'une planète interdite, les rêves n'existent que dans la tête, les produits n'accentuent qu'une fuite, pas besoin de chimie pour être en fait. Loin de moi l'idée d'une morale, d'un monde où personne se défonce, mais l'argent de toutes ces cavales est dans la poche de qui je dénonce. Mais l'argent de toutes mes cavales est dans la poche de qui je dénonce. Mais l'argent de toutes mes cavales est dans la poche de qui je dénonce. Oh oh oh, simplement vôtre. Oh oh oh, furieusement vôtre. Curieusement vôtre.
Il est grand temps de passer au grand sujet de la semaine, la drogue, puisque Radio Campus participe au festival Drogue Pure Culture qui a lieu cette semaine. Ce festival se propose de parler enfin des drogues comme d'un fait culturel et non d'un point de vue problématique ou médical comme c'est le cas en général dans les médias et ailleurs. Justement, les médias n'ont parlé que de drogue cette semaine, ou à peu près. Non seulement le gouvernement prépare un projet de loi qui tendrait à dépénaliser l'achat, la détention et la consommation de cannabis en petite quantité, mais en plus, le soir a commandé à l'ULB un vaste sondage sur les Belges et la consommation des drogues, sondage qu'il commente et illustre chaque jour de cette semaine en pages 2 et 3. La RTBF a également été associée au projet et elle a organisé vendredi dernier un grand débat sur la question après son magazine L'Hebdo, consacré aux drogues de synthèse dans les rêves. Je ne vais pas commenter ici tout ce qui a paru dans la presse de ces derniers jours, mais quelques remarques s'imposent d'elles-mêmes. Premièrement, le discours change, et en particulier par rapport au cannabis. Il change d'une part parce qu'il arrive parfois désormais qu'on prenne la peine de préciser que les drogues, ce ne sont pas seulement les produits illégaux célèbres que l'on désigne en général comme tels. Dans le sondage du soir, comme dans sa répercussion par la RTBF, on a pu apprendre que parmi les drogues les plus consommées en Belgique figurent également l'alcool et le tabac. Contraste fort avec RTL TVI qui a passé sous silence les bons résultats entre guillemets de ces deux produits au moment de parler du sondage dans son JT. Par rapport au cannabis, le discours médiatique est enfin quelque peu dédramatisé, notamment dans le soir sous la plume de Martine Van de Meulebroek. Elle a notamment écrit cette semaine un excellent article sur l'action d'Infordrogue dans les écoles. Elle prend bien soin de répercuter tous les propos de l'équipe d'Infordrogue, notamment lorsque celle-ci se plaint de n'être invitée dans les écoles que pour faire peur aux écoliers, alors qu'elle voudrait plutôt les informer correctement, tout simplement. On lit des citations inhabituelles, comme celle-ci, toujours dans le même article. « Il y a une réelle difficulté à parler de l'alcool et du tabac dans l'enceinte scolaire », dit un responsable d'Infordrogue, « parce que ce sont des substances légales qui posent problème aux adultes. L'alcoolisme des enseignants, c'est un sujet absolument tabou. Du côté des parents, ce n'est pas mieux ». Fin de citation. Le deuxième point que l'on peut remarquer, c'est que le discours, au contraire, ne change pas, en tout cas sur certains points ou dans le chef de certains journalistes. On constate encore toujours une confusion totale entre consommation et dépendance ou toxicomanie, parfois même lorsqu'il s'agit de cannabis. En corollaire, on constate également une différence de traitement entre les drogues légales et les drogues illégales. Un petit exemple sémantique, dans le soir, lorsqu'il est question du rapport entre drogue et créativité, on a droit à une petite énumération. Le cannabis est Bob Marley, la mescaline est Henri Michaud, l'alcoolisme est Ernest Hemingway. Dans les deux premiers cas, tout est dans le produit, cannabis ou mescaline. Dans le dernier, ce n'est pas l'alcool, mais l'alcoolisme qui rend le personnage différent, même si ici si, c'est dans un sens positif. On remarque tout au long du discours médiatique que l'approche problématique reste souvent la seule acceptée pour les drogues illégales. Pour les médias, il est donc possible d'être simple amateur de temps en temps, de bons cigares ou de vieux whisky, déjà plus difficilement d'un bon pétard et jamais d'un bon trip de LSD. Dans ce dernier cas, on est automatiquement un toxicomane. Devant toutes ces distorsions, signalons le bon éditorial d'Alain Lallemand, le spécialiste Maison du Soir. Pour lui, l'enjeu en matière de cannabis, c'est de parler vrai. D'une part, pour déblayer la table des négociations politiques, afin de parler sereinement, sans tabou, d'une drogue qui ne tue pas. La deuxième raison impérieuse, poursuit-il, est de dimension citoyenne. Je cite: il est nécessaire de se réapproprier le parler vrai, d'oser sans provocation, sans incitation, parler à notre jeunesse en termes adéquats, sans mensonge ni omission. L'enjeu est celui de notre crédibilité et par-delà de notre capacité à prévenir. Crédibilité de journaliste, d'homme politique, de directeur d'école. Fin de citation. De bien belles paroles, mais qui ne sont pas encore ancrées dans les mœurs, comme le prouve de façon éclatante un petit extrait du débat de la RTBF de vendredi dernier. On a pu y voir Michel Bengler, un ancien héroïnomane, qui témoignait de sa descente aux enfers, puis de sa remontée. Thierry Debocq, qui animait le débat, lui a ensuite demandé de lancer un message à la jeunesse qui se drogue. Mais quand il s'est aperçu que ce message ne correspondait pas à ses attentes de propagandiste, il a aussitôt poussé son témoin à l'autocensure, tout cela en direct. Écoutez plutôt.
Quand vous voyez des jeunes qui prennent de l'héroïne ou des drogues de synthèse, ecstasy, autres pilules, qu'est-ce que vous leur dites?
C'est un peu comme M. Pelk disait tantôt, les drogues de synthèse, pour la majorité, ça ne posera pas problème, parce qu'ils connaissent les doses qu'ils prennent, parce qu'ils en prennent que de temps en temps. Il y a une minorité chez qui ça posera problème. C'est comme le cannabis, en grosse majorité, ça ne pose pas problème. Il y a juste une toute petite minorité qui pose problème.
Mais enfin, c'est pas dangereux de dire comme cela, pour la majorité d'entre vous, ça ne posera pas de problème, si, ce n'est pas un encouragement.
Si, c'est à ne pas dire aux jeunes, évidemment, ceci.
Oui, je suppose qu'il y a des jeunes qui regardent la télévision.
Oui,
hein.
Oui. Évidemment, c'est à ne pas dire aux jeunes. Je dirais qu'il faut ne pas commencer du tout. Je dirais même ne pas commencer à consommer du cannabis non plus. Je ne dis pas que le cannabis entraîne directement à la consommation de l'héroïne. Je ne dis pas qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Mais ne pas commencer du tout, c'est le mieux.
On va y revenir. Merci, Michel Bengler.
Merci Michel Bengler d'avoir répondu au doigt et à l'œil à mon invitation au discours de propagande officielle. Il est donc interdit aux jeunes de savoir que pour la majorité d'entre eux, certaines drogues pourront être consommées sans problème majeur, souvent moins, même moins qu'avec l'alcool ou le tabac qui entraîne facilement la dépendance et qui tue des masses de gens. Merci Thierry Debocq, nous n'y reviendrons pas. Dernière constatation, jusqu'à présent, il n'a pas été réellement question dans le dossier du soir d'une drogue pourtant très populaire chez les jeunes, j'ai nommé les psilocybes ou champignons hallucinogènes. Leur existence a tout juste été mentionnée sans aucun détail. Il s'agit sans doute du même souci de protection de la jeunesse, ne pas révéler entre guillemets aux jeunes, qu'ils savent pourtant déjà, qu'à chaque automne poussent dans un champ près de chez eux des champignons qui ont le triple avantage d'être gratuits et parfaitement naturels et de faire voir des éléphants roses, enfin, façon de parler. Aucune mention non plus d'autres drogues parfaitement naturelles comme l'amanite tumouche, qui est en général présentée comme mortelle, comme les cactus contenant de la mescaline ou l'ayahuasca, qui ne sont pas, il faut le dire, des drogues en vogue chez nous, mais qui ont tout de même été au centre de nombreuses cultures anciennes, dont certaines survivent encore. On sort un peu du sujet, mais au moins ça me permet de faire la transition vers les invités. Je vous rappelle que nous avons ici en studio Jacques Mabi, qui est médecin et qui dirige au Pérou un centre de réhabilitation des toxicomanes. Et nous avons également Patrick Day, qui est anthropologue et qui étudie l'ayahuasca depuis une vingtaine d'années. Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, j'aurais voulu demander une réaction éventuelle à ce que vous venez d'entendre, le discours officiel médiatique sur la drogue.
Oui, c'est un discours qui est, pour quelqu'un comme moi qui vit au Pérou, dans un contexte culturel assez différent, même si je suis français d'origine, ça fait quand même 20 ans que je suis un peu éloigné, et ça m'est un peu difficile de me replacer dans ce contexte-là. Mais j'entends quand même derrière ce qui vient d'être dit et ce qu'on a entendu aujourd'hui en particulier dans cette conférence, dans ce congrès, une demande des usagers qui étaient présents, ce qu'on appelle
Je rappelle
pudiquement
que
des usagers.
vous êtes en Belgique pour participer au congrès Gestion des drogues 2000 qui réunit en fait tous les acteurs du champ qui s'occupent
Oui,
des drogues.
exactement. Ce qui demande quand même un petit peu d'ouverture, puisqu'on peut maintenant parler de choses qui sont un petit peu collatérales ou annexes, qui étaient difficiles il y a quelques années, et qu'on peut, en tous les cas, dans un contexte très officiel, poser la question du contexte culturel de l'usage des drogues, non plus simplement les substances, mais l'usage qu'en est fait. Parce que ma présence ici est due au fait que je me suis trouvé comme médecin allant en Amérique du Sud pour des sujets qui étaient très éloignés des drogues, et en fait en contact avec des cultures traditionnelles, avec très peu de moyens pour exercer la médecine conventionnelle que j'avais apprise, et en observant sur place un usage d'un certain nombre de substances, dont des substances psychoactives, qui étaient parfaitement intégrées dans un contexte culturel, qui ne posait absolument aucun problème, non seulement ne posait pas de problème, mais elle fondait les cultures locales, elle structurait la médecine, et au-delà même de cela, elle donnait des solutions à de nouveaux toxicomanes locaux qui étaient en contact avec les sociétés, la société occidentale, et donc allait bien au-delà de leur objectif primaire qui était de structurer la culture locale, mais en même temps de proposer des solutions à des problèmes tout à fait contemporains. Donc ça remettait en cause tout à fait notre abord de ce qu'est la modification de la conscience. Est-ce qu'on a droit de modifier sa conscience? Dans quelles conditions peut-on le faire? Est-ce que c'est dangereux ou c'est pas dangereux? Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Ça pose un champ de questions et c'est intéressant qu'on puisse maintenant, en tous les cas, en débattre ici en Belgique.
Vous pensez que le débat peut aller à fond parce qu'on vient de très loin quand même?
Je pense qu'il y a des résistances, mais il y a 10 ans, il était absolument impossible de prononcer ces mots-là. Maintenant, on peut déjà en parler, donc il faut quand même reconnaître aussi les avancées. Maintenant, il y a évidemment de grandes résistances, et quand on cherche les personnes qui peuvent prendre la parole dans ce domaine-là, on n'en trouve pas des quantités, ça c'est certain. Mais faut quand même, je pense que c'est important de souligner ce qui est positif, pour ne pas rester uniquement dans la critique. Déjà, le fait de pouvoir en parler publiquement, ça me paraît une chose intéressante.
Patrick Day, votre réaction à vous en tant qu'anthropologue au discours médiatique pour commencer?
Au discours médiatique, je le découvre. Moi, j'ai beaucoup apprécié le ton.
Mais vous vivez en France, donc
oui.
Vous connaissez le discours.
Ah oui, mais en France, effectivement.
Il est peut-être même encore pire qu'en Belgique.
Il est sûrement pire qu'en Belgique, ou disons un proche parent, un cousin très proche comme la langue. Non, c'est effectivement. Pour nous, universitaires, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il y a une autocensure qui se produit parce qu'effectivement, dès qu'on aborde ce sujet-là, on n'est pas sérieux, on n'a pas de crédit, on a effectivement. Ou alors, il faut l'aborder comme ça, comme le font les médecins sur le plan de la substance. Mais dès qu'on parle d'étudier des pratiques, des comportements, donc comme les sciences sociales le montrent, autrement que déviant, effectivement, d'un seul coup, nous, c'est ce qu'on essaye de faire en ethnologie. Après tout, on étudie des groupes. Alors, justement, qu'est-ce que c'est une prise de substance quelconque, dite de drogue ici, dans un groupe qui prend du crack, etc. Donc, le mettre en parallèle pour réfléchir à d'autres cultures qui, traditionnellement, font un usage de la drogue, je crois que c'est quelque chose d'important. Important pour comprendre, parce que je crois que dans les deux sens, parce que je crois que nous, on est là pour essayer de comprendre. Je dirais, j'ai un avis de citoyen pour savoir s'il faut pénaliser ou dépénaliser.
Mais attention,
non, mais moi, dans un principe, je suis contre la pénalisation. Mais en même temps, je pense que nous avons un problème dans notre société, c'est que dépénaliser alors que nous avons perdu l'usage. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, si d'un seul coup on donnait des formulas à tout le monde alors que personne n'a son permis de conduire, on risquerait un grand danger. Donc il y a une question dépénalisée, oui bien sûr, parce que la pénalisation, on sait très bien que ça produit des effets pervers bien plus grands que la dépénalisation. Mais comment faire pour réapprendre l'usage? Ça, c'est quelque chose.
Vous dites effectivement qu'on a perdu cet usage, c'est-à-dire que la majorité, si pas toutes les cultures anciennes, étaient structurées autour ou en tout cas intégrées de façon assez forte la prise de substances psychoactives. D'abord, je ne me trompe pas, c'est une majorité ou bien c'est vraiment toutes les cultures anciennes?
Oh, tout c'est difficile à dire, mais une grosse majorité. Mais c'est important. Juste 30 secondes pour prendre un exemple dont on parlait avec Jacques. Par exemple, on sait que les cultures indiennes ont de multiples psychotropes à leur usage. Mais par exemple, comme ils n'ont pas de pratique d'usage de l'alcool, tout le monde sait qu'un Indien qui prend de l'alcool, il ne sait pas le gérer. Donc c'est pas une question qu'on est bête, mais effectivement, s'il n'y a pas un cadre culturel pour apprendre,
qui entoure
etc.,
le produit.
qui entoure le produit, un cadre rituel, une certaine vision du monde, effectivement, toutes ces substances, alors à ce moment-là, elles deviennent des drogues.
Dans notre société occidentale, d'abord, quelles étaient les drogues de référence, entre guillemets, et surtout, comment est-ce qu'on en a perdu l'usage, comment dire, l'approche respectueuse ou l'usage, collez-vous-même le mot qui convient?
Je crois qu'on en a perdu l'usage avec Rome, je dirais, avec l'Empire romain qui se
Donc ça
déverse
date
sur
pas
l'Europe.
d'hier.
Ça date pas d'hier, et avec une position religieuse qui vient servir l'Empire romain. Quand je dis ça, je nomme pas le catholicisme en tant que tel, mais l'usage impériale d'une religion qui veut en faire une religion unique et qui, par définition, toute cette multitude de pratiques va être classée du côté de la sorcellerie.
On parle de quelle substance dans ces cas-là, par exemple
Mais
Rome?
justement, de ce que vous avez dit, psilocybine, amamite,
Parce que c'est rarement connu, ça, Datura.
datura. Voilà, c'est les principales.
Alors, on a entendu toutes les définitions qui circulent dans les médias d'une drogue. Si vous pouviez me donner à votre tour votre définition, qu'est-ce que c'est qu'une drogue?
Alors, c'est complexe parce que ça dépend de si on parle sur le versant de la droguerie ou la pharmacologie, de la médecine. Je crois qu'on ne peut pas donner de définition uniciste de ce que c'est que la drogue. On peut parler de la dépendance ou de la solitude qui deviennent dangereuses. Alors, il n'y a pas, je pense, un seuil spécifique. En tous les cas, pour qu'il y ait phénomène de toxicomanie au sens fort, il faut un certain nombre de facteurs. Et la toxicomanie, c'est le résultat de différents éléments qu'il faut associer. Il n'y a pas simplement, en tous les cas, dans le contexte traditionnel qui est celui que je connais, moi, en Amazonie, il n'y a pas simplement la substance, qui est déjà une première chose. Il y a la quantité, les doses, le mode de préparation, le mode d'assimilation, c'est complètement différent. Si vous prenez du tabac, si vous fumez du tabac, ou si vous le prenez en jus, il ne faut pas oublier par exemple que le tabac, pour prendre cet exemple, est la plante initiatique essentielle de l'Amazonie péru, de l'Amazonie en général. C'est-à-dire que c'est une plante qui a un rôle fondamental, qui est complètement sacré et qui justifie toute la pratique médicale de l'Amazonie. Or ici, pour nous, c'est un toxique, mais le mode de consommation n'est pas le même. Deuxièmement, il faut un contexte, comme le disait Patrick, il faut un contexte culturel, il faut que ça puisse s'inscrire dans une pensée qui soit co aussi collective et qui permette à l'individu, une fois qu'il va transformer sa conscience, de pouvoir utiliser, situer et gérer tout le matériel psychique, appelons-le ainsi, qu'il va avoir lors de ses expériences, pour pouvoir le resituer dans un contexte où ça prenne sens. C'est-à-dire que s'approcher d'une expérience de modification de la conscience, ça doit être une expérience sémantique au sens fort, c'est-à-dire une expérience qui est porteuse de sens. Or, la problématique principale de nos sociétés occidentales, c'est qu'il y a une absence de sens. C'est que les églises ne fournissent plus de sens, que les politiciens n'en fournissent plus. On a entendu quelques commentaires qui nous confortent dans cette direction. Enfin, il n'y a plus beaucoup d'instances. L'université, on peut se demander. Donc, où va-t-on? Et l'être humain ne peut pas vivre sans sens. Et on pourrait même aller un petit peu au-delà de ce qui était dit auparavant, c'est-à-dire non seulement toutes les cultures ont utilisé soit des substances, soit des techniques qui modifient la conscience, qui revient au même. C'est pas forcément une substance, ça peut être aussi le jeûne, ça peut être la danse, ça peut être le
C'est
rythme.
même carrément préculturel, non?
Oui, c'est inscrit. Alors voilà, c'est préculturel, mais on parle un peu plus loin, c'est-à-dire que tous les animaux, toutes les espèces animales, quand elles peuvent consommer des substances qui permettent de modifier leur conscience animale, le font systématiquement, ils reviennent constamment. C'est une espèce même de comportement instinctuel. On pourrait se demander, il y a
Oui,
quelques chercheurs
certains le classent
qui se
comme.
demandent si, en plus de boire, de manger, de se reproduire, si l'animal ou la biologie ou la vie, disons, ne va pas automatiquement, cherche automatiquement à élargir la conscience, à pouvoir concevoir des réalités différentes et concevoir une vision du monde qui est sans cesse renouvelée et enrichie.
Est-ce que ça ne contredit pas quelque peu l'idée de faire sens, dans le sens où justement, par exemple, quel peut être le sens de ce geste pour une abeille qui va siroter une fleur psychotrope et puis qui tombe par terre et puis qui recommence?
Ben, peut-être que c'est le sens de cela, c'est de pouvoir être plus conscient et d'avoir un élargissement du champ perceptuel. Au début, c'était un simple champ perceptuel qui va s'élargir. Nous avons la possibilité de l'intégrer à des niveaux supérieurs. Il y a des différentes couches, si vous voulez, dans le cerveau. Et les couches les plus profondes, c'est les couches du cerveau reptilien, nous assimilent très fortement aux animaux et très fortement, justement, aux expériences de modifier des états de conscience. Mais bon, il est souhaitable quand même chez l'être humain que ça arrive, ça puisse arriver en tous les cas à un moment donné à des couches supérieures, que ce soit une intégration corticale, consciente. Mais en tous les cas, c'est quand même intéressant de voir que ce processus de se défocaliser, c'est-à-dire de pouvoir voir la réalité d'une manière un peu différente de la manière dont on la voit habituellement. Ce qui était frappant, par exemple, dans le discours aujourd'hui de certains usagers de drogue, comme on dit maintenant, c'est-à-dire c'était la demande constante de sortir de l'ennui, de sortir de la banalité de la civilisation occidentale, de sortir d'un horizon qui est gris. On a besoin d'aventure, on a besoin de frissons, on a besoin de sentir vivre, on a besoin de s'approcher de la mort, de retrouver le sens et la saveur du risque réel. Mais, en même temps qu'on peut faire, disons, l'apologie ou reconnaître cela, il est important en même temps aussi de poser les limites et de dire que cela, ça doit se faire d'une manière canalisée, guidée, contrôlée. Là, je reviens sur ce que je dis, il y a la substance, il y a le contexte et il y a le guide. C'est-à-dire que toute démarche dans une société traditionnelle va passer par un guide qui est le passeur, qui est l'initiateur, qui est le maître, qui est le chaman, le thérapeute, etc. Notre société a une carence extraordinaire de guides. On n'a plus de guide, on n'a plus d'espace rituel, on n'a plus d'espace initiatique, il n'y a plus que le service militaire quand même supprimé, qui n'était pas vraiment initiatique, c'était plutôt initiatique à aux beuveries. Donc il n'y a pas vraiment d'espace, les églises sont désacralisées, chacun cherche comme il peut, et en général on le fait de manière chaotique quand on est jeune, et puis on le fait mal. Mais il y a derrière cela, on le sent bien, un désir qui moi me paraît complètement légitime de chercher aller voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. On pressent quelque part que la vie, c'est pas simplement dormir, manger, fonctionner, avoir des gosses et regarder la télé. On sent bien qu'il y a quelque chose d'autre. Et ça, c'est une quête qui me paraît complètement légitime. Alors, elle se fait dans la société occidentale actuelle de manière chaotique, avec des substances qui sont souvent inadéquates, qui sont mal absorbées dans des contextes...
Qui sont parfois dangereuses, quand
qui
même.
Qui sont parfois franchement dangereuses. Vous avez parlé du cannabis tout à l'heure. Faut quand même, je veux dire que dans certains cas, quand même, le cannabis est très dangereux pour certaines personnes, dans certains contextes.
Mm-hmm. Oui, effectivement. On parle souvent aussi on dit souvent aussi qu'il n'y a pas de produits doux ou de produits durs, mais qu'il y a des comportements doux et des comportements...
Voilà, alors on revient sur la notion d'usage. Il n'y a pas seulement la substance, il y a des usages, il y a des susceptibilités individuelles, il y a des contextes dans lesquels on prend, il y a un contexte culturel. Il faut prendre tout cela en compte. S'il n'y a pas tous ces éléments-là, ça n'a pas de sens de dire est-ce que vous êtes pour ou contre le cannabis, pour ou contre l'alcool, ou pour ou contre la télé. Tout dépend de ce que l'on en fait et comment on le fait. Donc les substances, disons, ce sont des véhicules. Les véhicules imposent une certaine conduite parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que le véhicule, comme une bicyclette ou un volo de 20 tonnes, vous ne pouvez pas la conduire de la même manière. Ça vous impose une conduite. Bon, manœuvrer ou gérer l'énergie, disons, pour le dire en termes très, très, très rapides, du cannabis ou du tabac ou de l'alcool, ça impose des conduites différentes. Ça, alors là, on peut dire que les Indiens amazoniens, en tous les cas, et je pense que dans bien d'autres cultures traditionnelles, sont des experts en ce qui concerne la gestion de ces états modifiés de conscience avec certaines substances, mais avec un contexte extrêmement rigoureux. On ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. C'est extrêmement rigoureux. Donc cette espèce, le toxicomane, c'est-à-dire cette espèce de prototype qui n'existe pas, mais qui est justement un prototype, le toxicomane fait une quête qui est incontrôlée, qui est désordonnée, et il est une espèce de radicalisation de la problématique du monde occidental. C'est tout de suite, rapidement et sans effort. Et ça, c'est absolument l'inverse de la démarche traditionnelle.
C'est la raison pour laquelle vous parlez tout de suite de toxicomane, parce qu'il y a quand même une revendication, il me semble, d'une certaine frange de la jeunesse dans la société, de reconnaître l'usage récréatif de certaines substances, c'est-à-dire totalement toxicomane, ni totalement clean, entre guillemets, mais disons une approche relativement prudente et finalement festive aussi. On l'a vu dans le reportage de la RTBF ce week-end.
Oui, mais ça devrait être plus convaincant. Si on est festif, on doit pouvoir être festif sans substance. Hein? Si vous êtes bien avec vos amis, vous allez vous amuser avec eux. Puis si en plus, il y a un verre de vin, bon, mais tant mieux. Mais il faudrait d'abord qu'on puisse être joyeux ou gay ou sans avoir besoin automatiquement d'une substance. Où on verse dans la toxicomanie, disons, c'est qu'on ne peut plus s'amuser si on n'a plus la substance. Et là, il y a une problématique, je crois, qu'il faut toucher. Il faut apprendre à gérer. Patrick l'a dit très bien, je crois. On a désappris un peu à gérer nos relations avec nous-mêmes d'abord, avec les les autres, avec l'univers. On n'est plus en contact avec tout cet univers. On est dans une espèce de phénomène d'isolement, d'atomisation de la société. Donc il y a un réapprentissage de toutes les relations et tous les liens et de tous les phénomènes de dépendance avec nous-mêmes d'abord, et puis ensuite avec les autres, et ensuite avec la société et l'univers.
Patrick Day, comment est-ce qu'on a désappris justement et pour remonter la pente, entre guillemets, vous disiez qu'une légalisation en soi ou une dépénalisation n'a pas grand intérêt si elle n'est pas accompagnée. Comment justement accompagner cette reculturalisation de l'usage de substances?
Parce que je crois qu'il faut revoir un petit peu historiquement la question. La drogue, c'est-à-dire pour moi, est un phénomène restant. La drogue en tant que drogue, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement cette substance sans univers derrière, et puis avec toutes ces qui induit des pratiques addictives. Hein. C'est-à-dire justement juste un mot par rapport à ce que disait Jacques sur le tabac. Après, je reviens répondre à votre question. Ça me paraît un exemple extraordinaire, le tabac. Le tabac, c'est la plante curative amazonienne. Tous les chamans l'utilisent, tous les thérapeutes. L'ayahuasca, par exemple, c'est pas le cas, c'est très... Mais du nord au sud, c'est la plante, on va le voir en Amérique du Nord, c'est la plante de...
C'est d'ailleurs la première plante que les Indiens ont offert voilà. Aux conquistadors qui débarquaient.
Mais ils ont fait la plante, et ils ont fait le mode d'emploi. On a pris la plante, on n'a pas pris le mode d'emploi. Et quand on prend cette plante sans mode d'emploi, au lieu de s'en servir comme pour se guérir, on se rend malade. Donc, effectivement, il y a... Et on en fait une drogue. Le tabac n'est pas une... Donc la drogue n'appartient pas à la substance, elle appartient à la manière de consommer les substances. Donc, alors, là justement, historiquement, c'est là où il y a... C'est-à-dire, la drogue, ça se fabrique par la colonisation. Les Espagnols, quand ils arrivent au Pérou, ils interdisent aux Indiens d'utiliser la feuille de coca, et puis après, ils recapturent la feuille de coca pour la donner, pour les faire travailler dans les mines. Donc, ils enlèvent la valeur traditionnelle d'usage rituel pour communiquer avec les ancêtres, pour en faire une substance qui les fait travailler. Et là, on invente la drogue. Les Français ont fait la même chose en Chine avec l'opium, les Anglais. Bon, donc, la drogue est un phénomène colonial. Et bon, c'est-à-dire...
La transformation d'une substance phénomène, en drogue, disons.
Voilà, c'est ça. Parce que pour moi, c'est ça, une drogue. La transformation d'une substance en drogue. Une drogue, c'est une substance qui n'a plus d'univers et plus de moyens, plus de mode d'emploi, plus de conducteur. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un phénomène colonial, effectivement. On fait perdre la culture aux gens qui l'avaient. Alors, on prend les substances comme... Alors, si la substance, finalement, elle devient le tout. Et c'est ça ce que disait Jacques, faudrait pas mal comprendre quand il parlait de festif. Si, bien sûr qu'on fait la fête, et on peut prendre quelque chose, mais si c'est ce quelque chose qui est la finalité de la fête, alors effectivement, on devient scotché à la substance. C'est là que commence la dépendance, puisque finalement, la substance, elle est le produit, sa relation, et l'univers lui-même est réduit dans la simple substance. Et alors là, on est dans la drogue. Elle contient tout. Mm-hmm. Je crois que c'est ça.
Pour en finir avec le discours médiatique sur la dépendance, cette fois, toute consommation étant qualifiée de toxicomanie, on se rend compte en fait que, comme justement il s'agit plutôt d'un comportement toxicomaniaque et non de principalement de la substance qui est derrière, on se rend compte aussi qu'il y a plein de dépendances à des choses qui ne sont pas du tout des substances psychoactives. Est-ce qu'on est tous dédrogués dans certains comportements quotidiens?
Oui, certainement, surtout dans le monde occidental. C'est-à-dire la notion de toxicomanie, de dépendance, appartient à la société occidentale. Il n'y a pas de sujet toxicomane, c'est extrêmement rare dans les sociétés traditionnelles. Ça n'existe pas. C'est un phénomène qui naît, qui appartient et qui est généré par la société occidentale. Ça, c'est important de le dire quand même, parce que ça nous pose quand même question sur notre mode de fonctionnement. Mais vous parliez tout à l'heure un petit peu aussi de la censure, ou disons, des médias. C'est la même chose. Enfin, quand voit-on, par exemple, vraiment, a-t-on parlé de la dépendance au sucre, par exemple? Ça ne vient à l'idée de personne. Pourtant, il suffit de essayer de faire une semaine sans sucre. On peut très bien survivre, hein, médicalement parlant, il n'y a pas de problème. Eh bien, on va se rendre compte qu'on est tous pratiquement avec un état de dépendance vis-à-vis des sucres. Parce que c'est un excitant et ça, il y a des explications aussi là-dessus. Donc, on a des phénomènes, et pas simplement par rapport aux substances, effectivement, il y a le jeu, il y a l'argent, la drogue, enfin, c'est le phénomène de la consommation.
Travail, plein de choses.
Absolument. Donc, c'est ce que disait Patrick, c'est pas simplement les substances, c'est tout objet qui perd sens, qui n'est plus dans une dimension de réalisation pleine de soi-même. Et ça nous pose la question, par rapport à la société occidentale, de la quête de la liberté. C'est-à-dire que ça remet en cause, qu'est-ce que c'est que la liberté? Est-ce que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, moi, finalement, la façon dont je pose la question, vous comprendrez que j'ai déjà ma réponse, mais que faire ce qu'on veut quand on veut, c'est du caprice. C'est pas la liberté. La liberté, c'est au contraire se réaliser soi-même. Et se réaliser soi-même, c'est-à-dire se connaître. Et se connaître, ça veut dire faire une exploration profonde de soi-même et s'en tenir à ce que l'on est. Donc sacrifier le reste. Alors bien, on va parler de sacrifice maintenant, dans le monde occidental, c'est pas forcément très populaire. Mais on est obligé de revoir ces notions-là. C'est-à-dire que la quête, si vous voulez, du toxicomane est une quête qui, à mon sens, enfin du toxicomane, et ce sujet qui n'existe pas, qui nous représente tous, est une quête légitime, mais elle est mal faite. C'est-à-dire qu'il y a une recherche qui est inconsciente, qui est généralement inconsciente, disons, de s'initier, d'initiation, c'est-à-dire de retrouver la dimension de la transcendance, de la sacralité, de la spiritualité, appelez-le comme vous voulez. Là, tout ça, ce sont des mots, ils sont tabous pour nous, c'est dans une faculté de médecine, c'est très dangereux. Mais enfin, bon, c'est comme ça que, donc, c'est ce que je pense, donc je le dis. Est-ce qu'on peut retrouver dans nos sociétés actuelles, contemporaines, des espaces qui soient des espaces réellement initiatiques, dans le sens qui nous permettent de nous rencontrer avec nous-mêmes, de nous rencontrer aussi avec notre ombre? C'est pas très très facile et très commode, mais c'est par là qu'il faut passer si on veut se réaliser, et en même temps qu'on découvre notre ombre, découvrir aussi ce qu'on porte comme potentiel positif, et comment peut-on réaliser pleinement ce potentiel. Donc ça suppose une démarche qui est assez différente, en fait, effectivement, qui repose des limites, qui repose des exigences, qui repose aussi qu'il faut travailler, il faut s'efforcer, mais avec sens cette fois-ci, et non plus simplement parce qu'il faut produire, avoir du rendement ou satisfaire le grand capital.
Pour conclure sur ce sujet-là, j'ai relevé dans Le Soir cette semaine une citation très intéressante de la part d'un médecin. Ça dit donc, le médecin met aussi en cause la fascination sociale ambiante pour la chimie. Il y a une pilule du bonheur, le Prozac, une de l'amour, le Viagra, une pour arrêter de fumer, le Ziban, une pour maigrir, le Xénical. Le corps ne fonctionne évidemment pas comme ça. L'expliquer, le montrer prend du temps, et le temps est peu valorisé en médecine. Pour cacher la douleur, c'est si facile de prescrire un antidouleur.
Ah oui, tout à fait.
On va en venir maintenant à votre activité, Jacques Mabi. Vous travaillez donc au Pérou dans un centre d'accueil des toxicomanes, là, des vrais toxicomanes hard. Et ça peut paraître très paradoxal pour ceux qui l'entendent, mais vous les soignez en leur administrant de l'ayahuasca, qui est une substance hallucinogène. Ici, dans les médias, on dirait une drogue. Alors, vous soignez le mal par le mal, ou comment ça se passe?
Non, il faut savoir que quand on utilise une substance hallucinogène, il n'y a pas de dépendance.
Aucune. Non, aucune substance hallucinogène.
Aucune substance hallucinogène ne gère pas. Il peut y avoir des sujets dépendants qui vont ingérer une substance hallucinogène en plus. Ça peut arriver.
Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir, comme pour le jogging ou le travail ou quoi que ce soit, une dépendance purement psychologique?
Oui, mais enfin, ça suppose.
Il y a des gens qui sont dépendants au LSD.
Oui, non.
Psychologiquement. Non. Oui, il y a des gens qui en prennent tous les jours.
Non, si vous faites un travail avec les substances hallucinogènes dans un contexte, comme on dit, qui est contrôlé, il n'y a pas de dépendance, il n'y a aucune dépendance.
C'est ça. Le contexte qui compte.
Quoi. Il y a le contexte, mais les substances elles-mêmes. Parce qu'à partir du moment où vous avez des substances dites hallucinogènes, ce qui est un mot qui est pervers, parce que hallucinogène, ça laisse entendre qu'il y a une espèce de falsification des sens et qu'on perçoit des choses qui n'existent pas. Or, il y a un objet qui n'est pas un objet matériel, mais qui est un objet psychique. Ce qui est vu au cours des phénomènes visionnaires plutôt qu'hallucinatoires avec ces substances-là correspondent à des formes symboliques d'archétypes, si vous voulez avoir un langage jungien, ou en tous les cas d'énergie psychique qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est pas sans objet. Un objet psychique est aussi actif qu'un objet matériel. Bon. Donc ce que l'on essaye de proposer, et ça c'est, nous n'avons rien inventé, nous avons simplement observé ce que faisaient les guérisseurs. Face à quelqu'un qui n'est pas initié, on va reprendre le chemin initiatique, c'est-à-dire qu'on va lui permettre de... Tu veux faire, en gros, pour le dire un peu de manière triviale, tu as envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir, tu veux aller voir ce qui se passe dans le monde autre, dans le monde des esprits, dans le monde de l'invisible, tu veux y aller, ok, c'est légitime, mais tu le fais mal. Tu le fais avec des substances qui sont inadéquates, tu le fais sans contexte, tu le fais pas guidé, etc. Alors moi, je te propose de le faire, mais de répondre donc à ta demande, mais avec un certain nombre de règles, de manière, avec des substances qui sont contrôlées, en te faisant guider, en respectant, en apprenant le respect de soi-même, le respect de son corps, le respect de l'autre. S'il n'y a pas ça, effectivement, c'est très dangereux. Même avec des substances hallucinogènes, pas parce qu'il y a la dépendance avec les substances hallucinogènes, mais parce qu'on peut toujours, quand on va pas, on est dans l'impossibilité d'intégrer ces expériences, on peut être déséquilibré. Quand on va passer dans ce monde autre, disons, au-delà du miroir, un peu comme Alice, on va trouver des choses qui sont extrêmement puissantes. C'est-à-dire, c'est tellement... Et alors, il y a une fascination extraordinaire. On peut vivre avec substance des choses qui dépassent, disons, le vécu ordinaire. Alors, il y a une fascination, mais la fascination, qui dit fascination, dit aliénation. Et l'aliénation, c'est pas la liberté, c'est tout l'inverse. C'est l'esclavage. Donc, il faut apprendre à aller dans ce monde autre, mais de manière respectueuse et en apprenant non seulement à y aller, ça c'est très facile, vous injectez n'importe quoi, vous allez aller de l'autre côté. Mais le problème, c'est de revenir. Et de revenir dans cette réalité, dans cette incarnation dans laquelle nous sommes, enrichi de ce voyage, de ce déplacement, et sans être, perturbé, ni physiquement, ni psychiquement. Donc ça suppose un apprentissage et un savoir-faire, et tous les rituels utilisés par les guérisseurs que nous avons appris, ce sont des technologies sous les lieux sacrés, ce sont des gestes et des attitudes qui sont opératoires, qui sont effectives, qui sont actives, donc aussi dangereuses. On ne peut pas faire n'importe quoi comme rituel. Donc tout ça, il faut qu'on le réapprenne, on ne sait plus ce que c'est qu'un rituel. On sait plus ce que c'est que l'initiation, on sait plus ce que c'est qu'être un passeur. Alors, il faut réapprendre tout ça, et dans ce sens-là, là, je crois que les sociétés traditionnelles ont maintenu une connaissance, ont maintenu un savoir-faire, et ils sont tous prêts à nous l'enseigner et à nous le transmettre. D'ailleurs, moi je connais beaucoup de guérisseurs qui ont un certain âge et qui sont angoissés de ne pas pouvoir transmettre leur savoir parce que personne ne va prendre. Donc, s'il y a des candidats à l'apprentissage, ils peuvent y aller, mais attention, c'est pas faire n'importe... Ben, pourquoi pas? Il y en a, j'en ai vu, mais c'est pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est très exigeant, ça demande de se confronter à soi-même, ça demande la motivation, ça demande d'apprendre le respect, ça demande d'avoir du temps. Donc c'est pas tout de suite et sans effort, c'est le contraire. C'est progressif, c'est relatif et c'est avec des efforts.
Un peu le contraire de nos valeurs culturelles à nous.
Absolument, c'est pour ça que le problème, je pense, drogue, disons-le vite comme ça, remet en question vraiment toute la structuration sociale du monde occidental.
Votre thérapie, le succès est au bout, je pense qu'il y a une 60% de taux de réussite, quelque chose comme ça. C'est plus ou moins que
c'est bien plus.
Chez nous, on n'a pas de solution, en clair.
Bon, faut dire que souvent, il n'y a même pas d'études statistiques chez nous. Bon. Mais enfin, non, c'est nettement plus. Ceci dit, bon, il y a des conditions. Ça dépend si les patients vont jusqu'au bout du traitement, quand ils vont jusqu'au bout du traitement, parce que c'est un traitement qui est quand même difficile. Mais lorsqu'ils vont jusqu'au bout du traitement, ça dépasse d'ailleurs les 60%, à la condition qu'ils aillent jusqu'au bout. Et ceci dit avec 2 ans de distance, hein, 2 ans de recul, et un suivi quand même assez proche. Donc, effectivement, et ça pourrait certainement être mieux s'il y avait un meilleur accompagnement, mais malheureusement, sans moyens, on n'a pas de subvention. Je crois qu'on est comme, c'était Radio Moustique, je crois, ou je ne sais plus quel journal, où étaient les moustiques, bon, bref.
Non, le journal du samedi.
Donc nous avons du mal à trouver des subventions, et d'ailleurs on n'en a pas du tout, c'est très simple, il n'y en a pas du tout. Donc nous sommes obligés non seulement de monter un projet, mais en plus de le financer, et en dehors du fait de traiter des patients, ceux qui peuvent payer nous payent, ceux qui ne peuvent pas payer nous payent pas, donc il faut faire des activités collatérales pour pouvoir financer. Donc c'est pas très, très aisé, très facile d'être médecin et devoir faire de la gestion de la comptabilité, de la diffusion et tout ça. Enfin, bon, mais bon, c'est en même temps une aventure, et c'est ce que je crois qui est intéressant dans l'époque actuelle, c'est de pouvoir créer des espaces où on peut vivre de véritables aventures.
Juste une dernière petite question, en bref, parce qu'il nous reste hélas très peu de temps malgré l'intérêt de la discussion. Vous êtes ici en contact avec beaucoup de médecins, vu que vous êtes un congrès où il y a quand même pas mal de médecins aussi. Comment est-ce que c'est perçu ce genre de démarche dans le monde scientifique traditionnel chez nous ?
Je crois qu'il faut distinguer, mon observation, c'est que les gens qui sont vraiment des gens de terrain, qui sont vraiment en contact de proximité avec toute cette problématique de la toxicomanie, plus ce sont des gens de terrain, plus ça leur paraît une évidence qu'il faut vraiment s'ouvrir sur d'autres démarches, qu'il faut effectivement qu'il y ait une quête qui est légitime quelque part, etc. Plus on s'éloigne et on va vers les gens qui sont dans les laboratoires, très éloignés du terrain, plus effectivement on a du mal à faire passer les messages. C'est-à-dire qu'on est plus facilement compris par des gens. Ce sont des questions de bon sens. C'est même pas des questions scientifiques. Il y a des questions très élémentaires, ce sont des questions de bon sens que la plupart des gens peuvent comprendre. Ceux qui les comprennent plus, c'est ceux qui se sont enfermés dans le tour d'ivoire, effectivement, qui ont du mal à replacer la problématique drogue, disons, dans un contexte beaucoup plus global et qui sont focalisés sur une molécule et sur un récepteur neuronal.
Dans une certaine mesure aussi un peu intoxiqué par une certaine idéologie.
Absolument.
D'accord. Ben, Jacques Mabi, Patrick Day, merci. Et Et voilà, Alter Echo se termine déjà. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les textes et les sons de cette émission sur le site internet www.multimania.com/alterecho en un seul mot. Le temps de remercier les invités, le temps de remercier Jean-Michel d'avoir assuré la technique. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 22h, comme toutes les semaines. Merci, au revoir.